lu par Renaud de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Ce sont quelques extraits de l'ouvrage « Provence » de Jean Giono. Il date des années 30. Je ne connais pas la Provence. Quand j'entends parler de ce pays, je me promets bien de ne jamais y mettre les pieds. D'après ce qu'on m'en dit, il est fabriqué en carton blanc, en décor collé à la colle de pâte. Des ténors et des barytons y roucoulent en promenant leur ventre enroulé de ceintures rouges. Des poètes officiels, armés de tambourins et de flûtes, barde périodiquement en manifestations lyriques qui tiennent moins de la poésie que d'une sorte de flux colériforme. Il paraît qu'il existe une Provence en fait libre. Je ne la connais pas. Toutes les légendes de la Haute-Provence viennent de trois sources enfoncées dans le temps. Les plus récentes habitent généralement les villages solitaires, bâtis au sommet des rochers. Ce sont celles qui racontent la vie des aqueducs et des fontaines. Dans l'histoire de ces hommes, il est presque toujours question d'eau et de sources, et les princes sont avant tout fontainiers. Ils sont les maîtres de la fraîcheur, de la mousse, de l'ombre et des conduits souterrains où clapote une eau de goudron dans des canaux de pierre froide. La Haute-Provence déroule ses bastions de collines le long d'une frontière qui va de Carpentras à l'auberge des Adrets. C'est le pays sur lequel se sont éboulées les Alpes. Les collines d'altitude moyenne, qui en recouvrent les trois quarts, gardent encore les traces d'un bouleversement géologique alpin. C'est une région où le tourisme a très peu pénétré. Le gros des gens à quatre roues est obligé de suivre les vallées, et dans les vallées, pour si belles qu'elles soient, il n'y a pas la splendeur et l'originalité des terres hautes. Comme tout le monde, je connais ce qu'on appelle bêtement la Côte d'Azur. Quel est le chef de rayon qui a inventé cette appellation ? Si on le connaît, qu'on le décore, il avait le génie de la médiocrité. Notre pays est en toute saison traversé par le fleuve de Parisiens, de Belges, d'Anglais et d'Esquimaux qui va se jeter en Méditerranée. C'est un Mississippi qui déborde en une Louisiane de marais, de crocodiles et de crapauds buffles. Sur la côte, on débite l'azur comme un ton. Certains jours d'été, c'est pire que les abattoirs de Chicago. Sur 40 kilomètres de longueur, on a mis à sécher de la viande humaine. Rien de commun avec le vrai pays. La Haute-Provence, dans sa partie méridionale, était couverte, je dis bien était couverte, de vergers d'oliviers. C'était un petit olivier court, qu'on taillait d'ailleurs bas, de façon qu'il reste à portée de la main. Car la civilisation de l'huile dans la Haute-Provence n'était pas la civilisation de l'huile telle qu'elle est en Tunisie, telle qu'elle est en Grèce. Chez nous, en Haute-Provence, on cueillait les olives à la main, une à une. La Basse-Provence circule à plat sur la rive gauche du Rhône, de la sortie du défilé de Mondragon jusqu'à la mer et le long de la Méditerranée au delta du Rhône à l'Estérel. C'est la Provence de tradition 1840. C'est Tartarin, c'est Mireille. C'est celle que le touriste croit connaître parce qu'il l'a regardée par les portières de sa voiture. C'est une Provence qui a fini par ressembler à ce qu'on dit d'elle. Valensole a une église espagnole. Elle émerge du plateau par la pointe de son extraordinaire clocher. Pendant quelques instants, il semble qu'elle sorte toute vivante d'un océan de lavande. De près, Valensole n'est plus que la capitale insolite et quasi déserte de l'Empire du Vent. De là, on accède en quelques kilomètres au large, sur lequel vogue le village de Puymoisson. Il n'y a pas si longtemps encore, vers 1930-35, le pays était soumis chaque printemps à des épidémies de suicide. C'était tantôt un bassin, et pourtant Dieu sait si l'eau est rare, où l'on allait se noyer, ou un arbre où on allait se pendre. Après 4 ou 5 victimes, les dieux consentaient à être exorcisés dans toutes les règles de l'art par un vieux prêtre qui parcourait seul les lieux maudits. Après la cérémonie, on se remettait à vivre, c'est-à-dire à être confronté heure après heure, pendant toute la vie, avec une splendeur sans pitié.